France Culture. Le journal, Jeanne Serrin.
Bonjour à tous. La fête se termine en Italie, dernier jour de compétition des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina et déjà les interrogations sur l'avenir pour le pays. Comment profiter de la réussite de ces Jeux? Décryptage de notre correspondant en Italie. Wikipédia, terrain miné de la propagande russe et des internautes sur le qui-vive pour repérer les fausses informations. La dermatose nodulaire contagieuse dans tous les esprits au salon de l'agriculture. Enfin, direction le royaume d'Hyrule, le jeu vidéo Zelda fête ses 40 ans. Les 4 médailles de la biathlète Lou Jean Monod, le désespoir du Norvégien Atle McGrath après son échec au slalom ou encore ce chien loup invité surprise sur la piste du ski de fond. Voilà les images que beaucoup retiendront des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Mais qu'en sera-t-il de l'héritage à long terme de la compétition? Alors que le pays s'attend à des retombées économiques à hauteur de 5 milliards d'euros, Bruno Duvic, les Italiens ont essayé de tirer les leçons des derniers JO d'hiver organisés chez eux à Turin en 2006.
Quel est l'héritage sportif des Jeux de Turin? Franco Bragagna, voix historique de l'olympisme sur la raille.
Zéro.
Zéro. La piste de Bob ne sert pas. Les autres sites n'existent plus. Les Jeux n'ont pas encouragé la pratique sportive des jeunes dans ces disciplines dans la région.
En 2026, plus qu'il y a 20 ans, on a exploité des structures déjà existantes. Les quelques-unes construites spécialement serviront-elles? Il y a des doutes pour la piste de Bob, de Cortina, mais il y aura peu de cathédrales dans le désert. Pour l'aménagement du territoire, il y a un héritage des Jeux de 2006. Gianluca Cedolin, journaliste sportif au site Il Poste.
Turin a beaucoup changé grâce aux Jeux. Elle est devenue plus moderne, plus belle. Il y a une série de travaux, une nouvelle ligne de métro. L'impact a été positif pour la ville.
Bilan, un tourisme boosté. Selon la Banque d'Italie, ce fut le seul vrai apport économique à long terme. De quoi relativiser une étude qui mise pour l'édition de cette année sur plus de 5 milliards d'euros de retombées. Et Milan avait moins besoin de travaux que Turin. Le village olympique deviendra une résidence universitaire qui manquait à la ville. Près de Cortina, tunnels et contournements éloignent les camions des villages, mais plus de 50% des travaux sont inachevés pour l'instant.
Et la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'hiver se déroulera ce soir à 20h30 dans les arènes de Vérone. Ça ne sera finalement pas 10, mais 15% de nouveaux droits de douane mondiaux après une première annonce vendredi. Donald Trump a finalement relevé le niveau de sa nouvelle taxe annoncée après le revers de la Cour suprême infligée à la politique commerciale du président américain. Des explosions entendues à Kiev tôt ce matin. Une attaque balistique 2 jours avant le 4e anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. La guerre en Ukraine qui se traduit aussi depuis 4 ans par une guerre informationnelle. L'un des champs de bataille se déroule sur Wikipédia. Avec ses 15 milliards de visites par mois, l'encyclopédie numérique est un acteur stratégique de communication à tel point que cette plateforme collaborative est régulièrement la cible de campagnes de désinformation. Noémie Miller, des internautes, cherche à imposer des récits pro-Kremlin.
Dans leur viseur, les pages russophones de Wikipédia.
Quand l'invasion de l'Ukraine a commencé, des modifications étaient apportées aux articles liés à la guerre, littéralement chaque minute.
Miral Grouznov est un contributeur russe de Wikipédia, aujourd'hui installé en Estonie.
Leurs tactiques étaient variées. Exagérer les succès des troupes russes, passer sous silence des crimes de guerre, ou tenter de les imputer à l'armée ukrainienne.
Il a passé des mois à réécrire les articles pour contrer cette propagande. Aujourd'hui, après 4 ans de guerre, les tentatives de manipulation ralentissent, d'autant que les Russes ont un nouveau terrain de jeu, leur propre encyclopédie en ligne, RuWiki, une vaste copie de Wikipédia, mais remplie de propagande pro-Kremlin.
Et Noémie, les pages Wikipédia dans d'autres langues sont aussi visées par des attaques pro-russes.
Plusieurs fois par semaine, des internautes tentent de modifier des articles du Wikipédia francophone. Pas d'attaques massives, mais des petites incursions, raconte un Français qui surveille les pages sous le pseudonyme Dark Vador.
C'est par exemple de remplacer sur la page de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, par dictateur. Un exemple très bête qui arrive de temps en temps et qui en général est annulé dans les quelques minutes.
Sur les pages Wikipédia anglophone, en revanche, les débats font rage. Le journaliste estonien Ronald Liv s'est par exemple aperçu que les pages de 600 personnalités de son pays et d'événements historiques avaient été modifiées ces derniers mois, comme celle sur la guerre d'indépendance face à la Russie.
C'était une guerre défensive pour l'Estonie. Pourtant, sur la version anglophone de Wikipédia, elle est décrite comme une campagne offensive. Il y a donc une tentative de normalisation des discours du Kremlin. L'histoire estonienne est en train d'être réécrite.
Un problème majeur alerte ce journaliste qui attend une réaction de la part de Wikipédia.
Noémie Lair de l'agence de vérification de Radio France. C'est un salon de l'agriculture sans vache qui s'est ouvert à Paris hier, porte de Versailles, en présence d'Emmanuel Macron. Une visite sans accroc. Le chef de l'État s'est notamment félicité du combat mené ces derniers mois contre la dermatose nodulaire contagieuse. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis le 2 janvier. Mais dans les allées du salon, le spectre d'une résurgence de la maladie reste vif, comme en témoigne Mathéo Daron, 24 ans, jeune éleveur de vaches installé dans le Bazadais en Gironde. Il est interrogé par Delphine Schiltz.
Il y a encore dans les couloirs le bruit de la dermatose, c'est quelque chose qui nous effraie, nous éleveurs. Aujourd'hui, le risque zéro, il n'existe pas. On est tous un peu en attente de voir ce que vont donner les beaux jours en termes d'insectes qui posaient problème justement en véhiculant cette maladie. Donc on est tous un peu à attendre de savoir si ça a vraiment fait effet de faire des abattages total de troupeaux, si ça a permis d'arrêter complètement la maladie. Malheureusement, certains ont payé le prix très fort. Ou si ça va repartir au printemps. Et si ça repart au printemps, j'espère qu'ils changeront leur fusil d'épaule. Faire un peu plus de vaccination et peut-être faire de l'abattage plus partiel et surveiller vraiment les troupeaux qui sont infectés. Voilà, aujourd'hui, c'est malheureusement une maladie dont on ne connaît rien. Et c'est vrai qu'on prend énormément de précautions, alors que peut-être qu'on pourrait agir différemment et essayer d'abattre que les animaux malades, voir comment le reste du troupeau réagit, garder les animaux en quarantaine et faire un peu plus finalement de suivi plutôt que de la précaution.
Et les ouvriers agricoles, il en sera aussi question dans le journal de 12h30. Focus ce midi sur les travailleurs immigrés avec Ibrahim Diallo, chargé de recherche en sociologie à l'Institut sénégalais de recherches agricoles. La préfète du Rhône effectue un signalement au procureur de la République après des insultes racistes et homophobes et des saluts nazis durant le rassemblement en hommage à Quentin Derenck, ce militant identitaire de 23 ans frappé à mort il y a 10 jours à Lyon. 3200 personnes étaient réunies hier à cette marche. Voilà 40 ans que les joueurs du monde entier parcourent les terres d'Hyrule pour sauver la princesse Zelda. Le 21 février 1986 sortait sur la console Famicom au Japon le jeu The Legend of Zelda. Un an plus tard, le héros Link débarque en Europe sur la console NES. Le succès du jeu est instantané, il s'écoule à 6 500 000 exemplaires et depuis, la réussite de la saga ne s'est jamais démentie grâce à une licence qui a su constamment se renouveler, Pierre Robert.
Il y a 40 ans, pour la première fois, le personnage de Link, affublé d'une épée et de son bonnet vert, partait secourir la princesse Zelda. Pour Florent Gorge, historien du jeu vidéo, avec The Legend of Zelda, les joueurs habitués des salles d'arcade peuvent enfin vivre une aventure avec une véritable narration.
Il permettait de traverser des zones avec des objets à récupérer pour ensuite réussir à passer certains passages, sinon impossibles à traverser. Il y avait, quand le joueur réussissait à résoudre les énigmes, un sentiment de satisfaction poussé à son maximum. C'est le maître étalon du jeu d'aventure action.
Depuis, The Legend of Zelda est devenue une saga à succès qui compte plus de 20 titres. Une réussite due au risque pris par Nintendo. En 1998 notamment, Zelda passe à la 3D avec Ocarina of Time et pose les bases du jeu d'aventure moderne. Pour Florent Gorge, c'est cependant en 2017 avec The Legend of Zelda Breath of the Wild que la saga devient véritablement grand public. Zelda se transforme en un gigantesque monde ouvert que le joueur peut explorer. Zelda Breath of the Wild se vend à plus de 33 millions d'exemplaires.
Nintendo a stoppé les donjons immenses qui demandent 3-4 heures pour être résolus, a changé la formule par des tonnes de mini-donjons qui sont disséminés un petit peu partout. Chaque donjon ne vous demandera que 15 ou 20 minutes, pas plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné un petit peu le monde ouvert.
En 2017, The Legend of Zelda Breath of the Wild obtient ainsi le titre de jeu de l'année. Depuis, de nouveaux jeux Zelda sont sortis et un film est en préparation. La nature du prochain jeu de la saga reste, elle, encore un mystère.
Pierre Roper, le cinéaste allemand Ilker Katak remporte l'Ours d'Or à la 76e Berlinale pour son film Yellow Letters, un manifeste contre l'autoritarisme et la Turquie d'Erdogan. L'Ours d'Argent de la meilleure performance a lui été attribué à Sandra Hüller pour son interprétation dans le film Rose de l'Autrichien Markus Schleinzer. La météo, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime toujours en vigilance rouge au cru. 8 autres sont en vigilance orange. Ce matin, les pluies arrosent le quart nord-ouest, temps nuageux sur le reste du pays et de belles éclaircies sur la moitié sud. Les températures toujours douces de 10 à 14 degrés.